Au cours de ses pérégrinations, en règle générale, Turkevitch, le nouveau prophète, se rendait d'abord chez le greffier du comté et ouvrait le banc d'un simulacre de procès juste sous ses fenêtres, choisissant dans la foule les acteurs convenables pour représenter qui les plaignants, qui les accusés. Il prononçait lui-même plaidoyers et réquisitoires, imitant avec un art certain la voix et les manières des prétendus incriminés. En même temps, il savait donner au spectacle tout l'intérêt de la modernité, multipliant les allusions à quelque affaire localement notoire. Et comme en plus il était fin connaisseur des arcanes judiciaires, il est facile de se représenter qu'alors la cuisinière du greffier sortait de chez son maître et courait glisser à Turkevitch quelques sous avant que d'aussi vite s'éclipser, repoussant les avances courtoises des gens de la suite du général. Quant à ce dernier, ayant reçu l'obol espéré, il éclatait d'un rire franc et, agitant triomphalement sa récompense, se rendait illico au comptoir le plus proche. De là, sa soif un peu calmée, il emmenait son auditoire vers d'autres maisons, au seuil de la demeure d'autres justiciables, modulant son répertoire selon les circonstances et le lieu. Et comme à chaque fois il recevait, tel un artiste, un cachet pour ses représentations, il était naturel que, progressivement, ses belles moustaches bien dressées, son ton menaçant s'apaisa. Les yeux du fanatique prophète se faisaient alors plus doux. Le drame tournait au joyeux vaudeville et se terminait généralement devant la maison du chef de police, Kotz. Le chef de police, Kotz, était le plus bon enfant des potentats locaux. Il n'avait que deux faiblesses mineures. Premièrement, il tentait de masquer ses cheveux grisonnants avec de la teinture noire. Et deuxièmement, il avait un net penchant pour les grosses cuisinières. Comptant, pour le reste, sur la volonté de Dieu et sur la naturelle gratitude de ses concitoyens. En s'approchant de la résidence de Kotz, Turkevitch faisait un clin d'œil complice à ceux qui l'accompagnaient, jetait sa gapette en l'air et annonçait à tous, en parlant bien fort, que ce n'était pas un notable, un supérieur qui habitait là, mais un père, son père et honoré bienfaiteur. Puis, portant son regard vers les fenêtres, il attendait ce qui allait suivre. Les conséquences pouvaient être de deux ordres. Soit Matryona, la grasse et rougeaude servante du gouverneur, sortait pour lui remettre de la part de son bienfaiteur et soi-disant père une généreuse offrande, soit la porte restait définitivement close et, à une fenêtre, surgissait la tête courroucée du vieillard revêche aux cheveux trop noirs de jais. De son côté, Matryona, se glissant discrètement par l'entrée de service, courait déjà jusqu'au poste de police où logeait l'agent Mikita, connu pour sa dextérité à se saisir de Turkevitch. Alors Mikita, assis sur son siège, flegmatiquement écartait la botte qu'il radoubait et se levait. Pendant ce temps, Turkevitch, ne voyant toujours pas le résultat de ses premières louanges, changeait progressivement et prudemment de registre, prenant un ton plus satirique. En règle générale, il commençait en disant qu'il regrettait que son bienfaiteur, pour on ne sait quelle raison, jugeât nécessaire de teindre ses vénérables cheveux gris avec du cirage à chaussures. Puis, affligé par l'indifférence totale que Kotz accordait à sa harangue, il élevait la voix, haussait le ton et commençait à tenser son généreux père pour l'exemple déplorable que celui-ci donnait à ses concitoyens, évoquant par là directement les relations équivoques et notoirement illégales que celui-ci entretenait avec Matryona, sa servante. Arrivé à ce point, et le sujet devenant plus que délicat, notre général perdait alors tout espoir de conciliation et, s'animant, usait d'une rare et redoutable éloquence. Malheureusement, généralement à ce moment-là, une perturbation extrinsèque autant qu'inattendue venait l'interrompre au milieu d'une de ses plus belles tirades. Alors que la figure échaudée et jaunie de Kotz se penchait toujours à la fenêtre, derrière Turkevitch s'était glissé Mikita, qui déjà le saisissait avec une remarquable adresse. Personne dans l'auditoire n'aurait eu sens d'avertir l'ardent orateur du danger qui le menaçait, car les techniques de contention que déployait l'officier de police, quasi artistiques, ne pouvaient que soulever l'enthousiasme. Le général Turkevitch, interrompu au milieu d'une phrase, avait la sensation d'être en quelque sorte soudainement saisi en plein vol. Mikita, en quelques fractions de seconde, l'avait basculé sur son dos. Puis le robuste agent, ployant légèrement sous le poids de sa charge, s'en allait clopin-clopant déposer son butin en cachot. Tout ceci au milieu des éclats assourdissants de la foule. Une minute encore, et la porte de la prison allait s'ouvrir telle une bouche obscure prête à avaler sa proie, notre fameux général, dont les jambes toujours suspendues dans le vide gigotaient impuissantes. Et la foule, ingrate, adressait alors des hurrahs à Mikita avant de lentement se disperser.